Les transformations du système de parti au Royaume-Uni. Venons-en maintenant au cas du Royaume-Uni. De la même façon que pour la France, les enquêtes post-électorales disponibles permettent d'étudier la structure des électorats pour la quasi-totalité des élections britanniques depuis le milieu des années 1950. Par comparaison aux États-Unis, on notera que le bipartisme en vigueur au Royaume-Uni est plus complexe et fluctuant. Si l'on examine la répartition des voix obtenues par les principaux partis lors des élections législatives menées de 1945 à 2017, on constate certes une domination d'ensemble des partis travaillistes et conservateurs, mais avec de multiples complications. Voir graphique 15.10. Lors des élections de 1945, le Labour obtint 48% des suffrages et les Tories 36% des voix, soit au total 84% des voix pour les deux principaux partis. Malgré le prestige lié à la victoire lors du Second Conflit mondial, les conservateurs emmenés par Winston Churchill sont sèchement battus et le travailliste Clement Attlee devient Premier ministre. Cette élection de 1945 joue un rôle fondamental dans l'histoire électorale britannique et européenne. Il s'agit en effet de la première fois que les travaillistes à eux seuls obtiennent la majorité des sièges aux communes, ce qui leur permet d'accéder au gouvernement et d'appliquer leur programme, avec notamment la mise en place du National Health Service, NHS, et d'un ambitieux système d'assurance sociale et une augmentation importante de la progressivité fiscale sur les revenus et les successions les plus élevées. Cette élection marque également le complet bouleversement du bipartisme britannique, qui tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle s'était appuyé sur l'affrontement entre les Tories, conservateurs, et les Whigs, renommés officiellement les libéraux à partir de 1859. À peine plus de 30 ans après le People's Budget, qui avait permis aux libéraux d'avoir raison de la Chambre des Lords en 1909-1911, les travaillistes arrivent au pouvoir en 1945 et remplacent définitivement les libéraux comme principal parti d'alternance face aux conservateurs après plusieurs décennies de compétition acharnée. Le pays qui avait été le plus aristocratique jusqu'au début du XXe siècle, celui où l'ancien schéma trifonctionnel et la logique propriétariste étaient entrés en symbiose, devient aussi celui où un parti qui se veut authentiquement populaire arrive au pouvoir. Par la suite, les libéraux ne réussiront jamais à retrouver leur rôle. Ils se redéfiniront comme libéraux-démocrates, puis comme l'alliance libéraux-SDP dans les années 1980, à la suite d'une scission du Parti travailliste. Après avoir réalisé des scores compris entre 10 et 25% au cours de la période 1980-2010, ils sont retombés nettement au-dessous de 10% lors des élections de 2015 et 2017. Lors des élections législatives de 2017, les conservateurs, emmenés par May, ont obtenu 42% des voix et les travaillistes dirigés par Corbyn en ont rassemblé 40%, soit au total 82% des voix pour les deux principaux partis, le reste se partageant entre les Lib Dem, UKIP, United Kingdom Independence Party, le SNP, Scottish National Party, et d'autres partis verts et régionalistes. De la même façon que pour les États-Unis, nous allons nous concentrer ici sur l'évolution de la structure des votes en faveur des deux principaux partis, travaillistes et conservateurs, à l'exclusion des autres partis, au cours de la période 1955-2017. Le premier résultat est que le Parti travailliste est lui aussi devenu le parti des diplômés au cours du dernier demi-siècle. Dans les années 1950, le vote travailliste était de l'ordre de 30 points plus faible parmi les diplômés du supérieur que parmi le reste de la population. Dans les années 2010, c'est l'inverse. Il est près de 10 points plus élevé parmi les diplômés du supérieur. De la même façon que pour la France et les États-Unis, on constate que ce retournement du clivage éducatif se retrouve à tous les niveaux de diplôme, entre primaire, secondaire et supérieur, mais aussi à l'intérieur du secondaire et à l'intérieur du supérieur. On observe également que le phénomène se déroule de façon graduelle et continue au cours des 6 dernières décennies et que la tendance de fond n'est guère affectée par la prise en compte des effets de l'âge, du sexe et autres caractéristiques socio-économiques individuelles. Voir graphique 15.11 et 15.12. Par rapport à la France et aux États-Unis, on notera toutefois que l'évolution observée au Royaume-Uni est légèrement décalée dans le temps. Autrement dit, Par comparaison aux deux autres pays, le vote travailliste est particulièrement centré sur les non-diplômés en début de période, et il faut attendre la toute fin de la période pour que les plus diplômés basculent clairement du côté des travaillistes. Voir graphique 15.13. Ce décalage exprime une réalité importante. Par comparaison aux démocrates états-uniens, mais aussi aux socialistes et communistes français, le vote travailliste est encore plus fortement issu des classes populaires et des travailleurs les moins qualifiés. Il est d'ailleurs intéressant de noter que ce parti authentiquement populaire a longtemps effrayé une partie des élites intellectuelles. L'exemple le plus fameux est celui de John Maynard Keynes, qui, dans un article publié en 1925, expliqua les raisons pour lesquelles il ne pourrait jamais voter travailliste et continuerait, quoi qu'il arrive, à voter pour les libéraux. Pour résumer, il s'inquiète du manque d'intellectuels dignes de ce nom, et sans doute tout particulièrement d'économistes, pour encadrer les masses. « I do not believe that the intellectual elements in the Labour Party will ever exercise adequate control. Too much will always be decided by those who do not know at all what they are talking about. I incline to believe that the Liberal Party is still the best instrument of future progress. » On notera que Hayek, avec un point de vue politique différent, se méfiait également beaucoup de l'arrivée au pouvoir des travaillistes britanniques, comme d'ailleurs des sociaux-démocrates suédois, qui risquaient selon lui de basculer très vite vers un pouvoir autoritaire et une remise en cause des libertés individuelles, ce dont il se faisait fort d'alerter ses amis intellectuels qui avaient cédé à ces sirènes dangereuses. À l'inverse, rappelons que le sociologue travailliste Michael Young s'inquiétait dès les années 1950 que son parti, faute de mettre en place des réformes suffisamment égalitaires et ambitieuses dans le système éducatif, violemment stratifié au Royaume-Uni, ne finisse par s'aliéner les classes populaires les moins formées et ne devienne un parti de techniciens qui aurait alors à affronter des populistes. Mais il n'allait toutefois pas jusqu'à s'imaginer que le parti travailliste finisse par dominer les conservateurs au sein des plus hauts diplômés du supérieur. De la gauche brahmane et de la droite marchande au Royaume-Uni. Avec retard sur les évolutions similaires observées en France et aux États-Unis, le parti travailliste est donc lui aussi devenu à sa façon une gauche brahmane, réalisant ses meilleurs scores parmi les plus diplômés. Examinons maintenant l'évolution des clivages électoraux vis-à-vis du niveau de revenus. Au cours de la période 1950-1980, on constate un clivage très marqué en fonction du revenu au Royaume-Uni. Les plus bas déciles votent fortement pour le parti travailliste, mais cette propension à voter travailliste s'abaisse régulièrement avec le décile de revenus, et les plus hauts déciles votent massivement pour les conservateurs. Ceci est par exemple particulièrement net lors de l'élection de 1979, qui voit la victoire de Margaret Thatcher sur la base d'un programme reposant sur des mesures anti-syndicats, des privatisations et des baisses d'impôts pour les plus hauts revenus, le tout dans un contexte de crise économique et d'inflation élevée. D'après les données disponibles, moins de 20% des électeurs du décile supérieur votèrent travailliste en 1979 et en 1983 et environ 25% en 1955 ou en 1970, soit, dans tous les cas, environ 75-80% de votes conservateurs pour les électeurs les plus riches. Voir graphique 15.14. Par comparaison à la France, le clivage vis-à-vis du revenu est historiquement plus marqué au Royaume-Uni. En France, le profil du vote pour les partis de gauche, socialistes, communistes, radicaux, écologistes, est relativement plat au sein des 90% des revenus les plus bas et ne s'abaisse nettement qu'au niveau du décile supérieur. Si l'on examine les données d'enquête détaillées par secteur d'activité, on constate que cette différence s'explique essentiellement par le nombre plus élevé d'indépendants, et particulièrement d'agriculteurs en France, dont les revenus ne sont pas toujours très élevés, mais qui possèdent souvent des biens professionnels et qui se méfient des partis de gauche. Au Royaume-Uni, le secteur agricole et indépendant a été réduit à peu de choses beaucoup plus tôt qu'en France et la main-d'œuvre est massivement salariée, avec pour conséquence un clivage classiste plus marqué, notamment en termes de revenus. Cela contribue également à expliquer pourquoi le clivage éducatif est historiquement moins marqué et s'est retourné plus rapidement en France qu'au Royaume-Uni. Les indépendants, et notamment les indépendants agricoles, constitue un groupe important et relativement peu diplômé qui n'a jamais voté fortement à gauche. Concernant les effets du revenu, on constate également une évolution temporelle assez nette au Royaume-Uni à partir des années 1980-1990, de la même façon qu'en France et aux États-Unis. En particulier, les revenus les plus élevés votent plus fortement pour le New Labour de Tony Blair entre 1990 et 2005 qu'ils ne votaient travailliste dans le passé. Cela peut sembler logique, dans la mesure où le New Labour attire également de plus en plus de diplômés du supérieur et où ses politiques fiscales sont relativement favorables aux hauts revenus. De même que les administrations Clinton, 1992-2000, et Obama, 2008-2016, vis-à-vis des réformes reaganiennes des années 1980, les gouvernements New Labour, 1997-2010, ont, dans une large mesure, choisi de valider et de pérenniser les réformes fiscales de l'ère thatcherienne. À la différence des gouvernements conservateurs Thatcher et Major, les gouvernements travaillistes Blair et Brown ont toutefois consacré davantage de ressources publiques pour investir dans le système éducatif. Mais ils ont également choisi d'augmenter fortement les droits d'inscription à l'université lors de leur passage au pouvoir, ce qui n'est guère favorable aux étudiants issus de catégories modestes. Les droits maximaux que peuvent faire payer les universités britanniques ont ainsi été portés à 1000 livres en 1998, puis à 3000 livres en 2004, avant de poursuivre leur progression jusqu'à 9000 livres en 2012. Au final, ces politiques signent une forme de rapprochement entre la gauche brahmane et la droite marchande au Royaume-Uni. Le changement de leadership à la tête du Parti travailliste va cependant contribuer à modifier la donne. Lors des élections législatives de 2015 et 2017, on constate que les électeurs à plus haut revenu tendent à repartir fortement du côté des conservateurs, si bien que l'écart entre l'effet du diplôme et l'effet du revenu tend à s'élargir. L'écart entre les 10% des électeurs les plus diplômés et les 90% les moins diplômés passe de 0 à 12 points entre 2010 et 2017. Tandis que l'écart entre les 10% des revenus les plus élevés et les 90% les moins élevés passe de moins 10 points à moins 20 points, voire graphique 15.15. Cela peut s'expliquer de différentes façons, sans que les données disponibles permettent de trancher. Tout d'abord, les politiques défendues par les travaillistes ont sensiblement évolué depuis l'élection de Corbyn à la tête du parti en 2015. Par comparaison à la période du New Labour, les travaillistes envisagent des mesures fiscales plus redistributives et plus généralement un virage à gauche qui a pu effrayer les électeurs les plus aisés. À l'inverse, la nouvelle plateforme travailliste comprend des éléments qui ont pu faire revenir des électeurs issus des catégories de revenus plus modestes. Il s'agit en particulier de mesures favorables aux syndicats et donnant plus de pouvoir aux représentants des salariés, avec la mise en place d'un partage des droits de vote entre salariés et actionnaires dans les conseils d'administration, de façon comparable à la cogestion germanique et nordique, ce qui n'a jamais été fait au Royaume-Uni. Enfin, les travaillistes défendent désormais la gratuité complète de l'enseignement supérieur, comme cela existe en Allemagne et en Suède, ce qui constitue un changement complet de perspective par rapport aux hausses de droits d'inscription mises en place par le New Labour entre 1997 et 2010. Pour des raisons évidentes, cette proposition semble avoir rencontré un succès particulier parmi la jeunesse populaire lors de l'élection de 2017. La différence entre le niveau du vote travailliste parmi les électeurs âgés de moins de 35 ans et ceux âgés de 65 ans et plus a atteint 40 points lors des législatives britanniques de 2017, soit l'écart le plus élevé jamais observé depuis 1945, non seulement au Royaume-Uni, mais également si l'on examine les écarts équivalents pour le vote pour les partis de gauche en France et le Parti démocrate aux États-Unis depuis le Second Conflit mondial. Il faut également prendre en compte l'effet du référendum sur le Brexit mené en 2016, au cours duquel la sortie de l'Union européenne a été approuvée par 52% des électeurs, sur les élections législatives de 2017. Même si la position personnelle de Corbyn pouvait paraître ambiguë ou insuffisamment enthousiaste, la position officielle du Parti travailliste lors du référendum était d'appeler à voter pour le Remain. C'était également la position de plus de 90% des députés travaillistes contre environ la moitié des députés conservateurs. En tout état de cause, le vote travailliste est associé à une position qui est globalement plus favorable à l'Europe que le vote du Parti conservateur, qui était à l'initiative du référendum de 2016. Cela a pu contribuer à un vote travailliste particulièrement élevé en 2017 parmi les diplômés du supérieur, qui sont très majoritairement hostiles au Brexit. On notera que les plus hauts revenus, qui sont également inquiets du Brexit, ont cependant fui le vote travailliste en 2017, ce qui laisse penser que le virage à gauche pris par Corbyn les inquiète encore plus que le Brexit. Au final, le vote travailliste a été maximal parmi les diplômés à revenus moyens. Je reviendrai plus loin sur la structure des votes observés lors du référendum sur le Brexit et plus généralement sur la question du futur de l'Union européenne, qui est en passe de devenir la question politico-idéologique centrale au Royaume-Uni comme sur le continent. Pour résumer, si l'on compare l'évolution générale des clivages observés dans les différents pays en fonction du diplôme, du revenu et du patrimoine, on constate des points communs frappants, mais également des différences significatives, notamment en toute fin de période. Au Royaume-Uni, l'écart entre l'effet du diplôme et celui du revenu et du patrimoine tend à s'accroître en 2015-2017. À l'inverse, aux États-Unis, on observe lors des élections de 2016 que l'effet du revenu et du patrimoine tend à rejoindre celui du diplôme. Autrement dit, les plus hauts revenus et patrimoine tendent à rejoindre les plus diplômés dans le vote pour le Parti démocrate. De toute évidence, le contraste entre les deux pays dans les différences affichées de stratégie joue un rôle important. Le tournant pro-redistribution du Parti travailliste sous Corbyn a fait fuir les plus hauts revenus et attiré les groupes plus modestes, alors que l'inverse s'est produit avec la ligne centriste affichée par le Parti démocrate avec la candidature de Hillary Clinton. Si les électeurs du Parti démocrate avaient sélectionné une candidature de type Sanders, on peut imaginer que la structure des votes aurait été plus proche de celle observée au Royaume-Uni. La France représente quant à elle un troisième cas de figure. Compte tenu notamment du système électoral et de la fragmentation historique de son système de partis, on a assisté en 2017 à l'arrivée au pouvoir d'une coalition rassemblant à la fois les plus hauts diplômés et les plus hauts revenus et patrimoines, rassemblant les segments les plus aisés des anciens partis de la gauche électorale et de la droite électorale. Ces trois situations très contrastées sont intéressantes, car elles illustrent à quel point rien n'est écrit d'avance. Tout dépend notamment des stratégies de mobilisation et des rapports de force politico-idéologiques en présence. Il existe certes dans les trois pays des tendances lourdes communes liées au fait que le système de partis gauche-droite de type classiste dans l'après-guerre a été progressivement remplacé par un système d'élites multiples constitué par une gauche brahmane attirant les plus diplômés et une droite marchande attirant les plus hauts revenus et patrimoines. Mais au sein de ce schéma général, de multiples évolutions et trajectoires sont possibles, d'autant plus que le nouveau système est extrêmement fragile et instable. La gauche brahmane est tiraillée entre une aile pro-redistribution et une aile pro-marché, et la droite marchande l'est tout autant entre une faction tentée par une ligne nationaliste ou nativiste et une autre préférant maintenir une orientation principalement pro-business et pro-marché. Suivant la tendance qui l'emporte au sein de chaque camp, ou les nouvelles synthèses qui s'esquissent, différentes trajectoires et bifurcations aux effets potentiellement durables peuvent survenir. Nous y reviendrons dans le prochain chapitre quand nous aurons terminé l'examen des différents pays et configurations électorales.